Michel Lapierre Dallaire est lauréate du prix littéraire Jacques Poiré Outaouais 2022 grâce à son œuvre « Il y avait des limites, si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok ». Dans son ouvrage, l'autrice traite de thèmes inscrits dans notre temps, similaires au mouvement MeToo de 2017, des sujets souvent pénibles à aborder en société. Celle dont la vie a été amorcée dès la jeune enfance par des abus inqualifiables est fièrement aujourd'hui parmi nous pour décortiquer cette autofiction. Michel Lapierre Dallaire, comment ça va ?
Ça va bien, et toi-même ?
Ça va très bien. Ton premier bouquin, il y avait des limites, si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok, te faire remporter un prix. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça?
Ben, je suis super honorée, vraiment contente. D'ailleurs, là, à l'heure qu'on se parle, ça fait deux prix parce que j'en ai reçu un autre au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a deux ou trois semaines. J'ai eu le prix Découverte pour mon premier roman. Fait que c'est tout le temps un honneur de voir que une création qu'on fait remporte des honneurs comme ça, puis des prix. Ça veut dire que c'est reconnu.
Oui, tout à fait. Alors, mais parle-moi un peu de ton roman. Est-ce que c'est réellement le reflet de ta vie? Parce que c'est une autofiction.
Ben, par définition, l'autofiction, c'est vraiment comme inspiré de faits réels puis de la vie en général de l'auteur ou de l'autrice. Puis, il y a des éléments de fiction. On ne sait pas trop lesquels, mais tout ça ensemble, ça fait que ça peut paraître sous le nom de roman, dans le fond. C'est pas comme un récit, c'est pas une autobiographie, c'est vraiment un roman parce qu'il y a des choses qui ont été changées, qui sont inventées. Mais essentiellement, je dirais que ce roman-là, en fait, au départ, quand j'étais invitée justement dans des émissions comme ça, au début, je me disais, bon, je vais parler de la narratrice, du personnage, mais je me confondais toujours dans mes mots, puis je finissais par dire je, parce que cette histoire-là, c'est la mienne. Là.
Ouais. Ouais. Parle-nous, dis-moi un peu, comment est-ce que tu parviens à trouver le titre de ton histoire, de ton roman?
Ben, en fait, j'avais écrit un recueil de poésie avant ce livre-là, puis c'était un poème intégral, dans le fond, y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchis, mais c'était par amour, ok. Puis en faisant lire ça, des vieux textes à une de mes amies, parce qu'on cherchait, je cherchais mon titre de roman, elle m'a dit, ben, ça va être ça ton titre. Puis j'ai trouvé que c'était une excellente idée, mon éditeur aussi d'ailleurs, parce que c'est long, il n'y a pas de ponctuation, on peut pas reprendre son souffle du début à la fin, il faut le dire d'un trait, puis ça prend du temps, tout le monde se trompe, ça force les gens à lire comme il faut, puis à se reprendre, puis en même temps c'est une prise de parole aussi, parce que le livre, comme il parle justement de s'affirmer, puis de prendre sa place comme femme, puis comme féministe, puis face aux violences sexuelles, puis aux violences qui sont faites aux femmes, ben le fait aussi de devoir prononcer ce titre-là d'un souffle, puis de prendre du temps d'entrevue, puis des lignes de journal pour l'écrire, c'était un acte un peu de révolte aussi.
Oui, tout à fait. Tu viens de parler de ce genre de thème, c'est-à-dire que ce soit agression, violence. Qu'est-ce qui te pousse à écrire ce roman et à le publier même? C'est vrai que tu parles de ce genre de thème-là, mais à la fin, qu'est-ce qui te pousse? Je sais pas si tu as hésité un jour, je t'ai dit, mais non, je vais pas le faire, mais est-ce que c'était arrivé, genre?
Ben oui, mais c'est ça. En fait, moi, j'écris depuis que je suis toute petite. Puis j'ai toujours voulu publier un roman. Puis ce livre-là, en fait, ben j'ai beaucoup écrit avant d'avoir écrit ça, mais j'ai l'impression que ce que j'écrivais était pas suffisamment authentique, comme il y avait une partie de moi qui avait quelque chose à dire, puis je le mettais toujours de côté. Puis en fait, je me suis sentie libre de faire ce livre-là quand ma mère est décédée, le beau-père dans le livre il est décédé aussi, bref, tout le monde est mort. c'est triste à dire, mais en même temps, c'est un peu drôle. Puis moi, ça m'a permis d'être libérée du poids que ça aurait pu avoir sur la vie des autres, parce que en fait, c'est mon point de vue, c'est ma vie, mon expérience. J'aurais pas voulu imposer ce retour médiatique-là, puis le fait que notre vie devienne publique à des gens qui n'ont pas demandé d'être inclus là-dedans. Fait que pour moi, ce récit-là, en tout cas, allait de soi avec le fait que ma mère, entre autres, était décédée. Mais tu vois, j'aurais peut-être écrit un autre livre, mais certainement pas celui-là si tout le monde était encore là.
Ouais, je comprends. Ouais. Mais ton roman peut choquer, on aperçoit, je reviens encore sur le thème, des thèmes reliés à la violence, aux agressions sexuelles, au suicide, suicide, à l'alcool, à la drogue. Pour qui as-tu écrit ce livre, Michel? Est-ce que tu as écrit pour sensibiliser ou pour te libérer?
Je pense pas tant pour me libérer, c'est-à-dire dans mon processus d'autrice, ça m'a libérée parce que je sentais qu'il fallait que je dise ça avant de pouvoir dire autre chose. Mais ultimement, tout le travail que moi j'ai dû faire sur moi-même pour me guérir de plein de choses, il a été fait avant de publier. C'est-à-dire que j'aurais pas été capable d'écrire ça avec suffisamment de distance si j'avais pas travaillé d'abord avant sur moi-même pendant des années et des années. Fait que ce livre-là, j'avais envie... En fait, tout ça s'est fait en même temps que le début de Me Too, tout ça. Ça s'inscrivait un peu dans mes préoccupations du moment. C'est des histoires qui me reviennent à moi... Michel, pas autrice, là, Michel dans ma vie privée, j'y pense toujours à ces choses-là. Puis là, en plus, sur la place publique, les femmes prenaient la parole pour dénoncer ces violences-là. Fait que ça venait me rejoindre tout de suite. Puis j'ai trouvé tellement courageuse. J'ai voulu comme participer à ce mouvement-là avec ce livre-là. Puis en même temps, si ça peut aller rejoindre certaines personnes puis sensibiliser les gens, tant mieux.
Oui, tu as parlé de guérison tout à l'heure. C'est quelque chose qui me touche personnellement. Lorsqu'on vit tant de traumatismes étant jeune, par quoi commence la guérison?
Ah, c'est une très bonne question. En fait, il y a quelque chose à laquelle on réfléchit pas toujours, mais en fait, c'est dans la pyramide de Maslow un peu. À la base, il faut que tous nos besoins de base soient comblés pour qu'on puisse s'élever dans quelque chose qui nous permette de nous épanouir comme individus, comme personnes, puis intellectuellement, puis artistiquement. Fait que pendant des années, en fait, moi, j'étais plutôt... préoccupée par où je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, un jour à la fois, survivre dans un contexte qui demandait que ce soit ma seule préoccupation. Puis la guérison a pu être entamée quand tous ces besoins-là de base, je les ai sentis en sécurité, en fait. Puis à partir de là, je pense que d'abord la guérison commence du moment où on est assez humble, puis on a assez de recul envers soi-même pour se rendre compte qu'on est brisé un peu. Puis il faut commencer à recoller tout ça, parce que sinon, en fait, si on reste brisé puis qu'on fait pas de démarche, à la fois pour nous-mêmes puis pour les autres, on finit par juste faire une suite d'erreurs qui se répètent puis qui se répètent. Fait que je pense que une fois que tous ces besoins-là de base sont comblés, ça m'a permis de m'installer dans ma vie, puis de faire comme « wow, ok, ça marche pas du tout, mes relations avec les gars, avec les filles, avec mes amis, y a rien qui fonctionnait. » Fait que ça a commencé, ouais, par ça.
Par ça. Ouais. Alors, que représente la littérature pour toi aujourd'hui?
Ça l'a toujours représenté, parce que en fait, moi j'ai un trouble du spectre de l'autisme. Mmh. Et puis, depuis que je suis petite, je suis quelqu'un d'assez solitaire, puis vraiment introvertie. Puis petite, je lisais beaucoup, c'était quand j'étais enfermée dans ma chambre au sous-sol, les livres, c'était les seuls « compagnons » entre guillemets que j'avais. Puis ma façon aussi de développer un peu ma vision des choses, puis ma personnalité, c'était à travers les histoires que je lisais. Je me demandais comment, moi, est-ce que je vivrais là-dedans, ce serait quoi mes réactions, tout ça. Puis ça l'a toujours eu, au fil de toutes ces années-là, un rôle un peu de ben, salvateur, puis une espèce de bouée, tu sais, un oasis dans lequel je pouvais toujours me réfugier quand... tout autour de moi, ça marchait plus. Puis même, en fait, quand les besoins de base sont pas comblés, je veux dire, il y a toujours un livre à un moment donné, là, même dans les troc-livres, là, les petites cabanes où il y a des livres gratuits qu'on mm-hmm. peut emprunter. Il y a toujours un livre à quelque part qui peut nous donner une façon de nous évader. Puis encore aujourd'hui, je dirais que c'est ça. Maintenant, je lis beaucoup, beaucoup, j'écris beaucoup. En fait, c'est ma vie... presque entière qui est axée sur la littérature, mais peut-être moins pour le fait de m'évader. En ce moment, je dirais que je lis plus puis j'écris plus pour, au contraire, m'ancrer dans la réalité puis trouver ma place comme autrice.
Comme autrice, hein. Ouais. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut se procurer ton bouquin pour des personnes qui nous écoutent?
Donc, toutes les librairies l'ont, la librairie du Soleil, Renombré, Archambault au Québec, n'importe quelle librairie, en fait, même Chapters, je pense qu'ils ont mon livre. Sinon, sur le site des éditions de la Courte Échelle, dans la catégorie de la Mèche, en fait, qui est ma branche à moi, là, dans laquelle j'ai publié, on peut commander sur le site des libraires aussi du Québec.
Revenant un peu aussi sur le bouquin, tu nous informais, en fait, avant que... tu as écrit en fait d'une manière pour le Québec. Ton livre sera bientôt publié en France. Et donc, il y a une différence entre les deux. Est-ce que tu peux nous parler de cela?
Oui, ben en fait, au Québec, il y a le récit que j'ai présenté à mon éditeur à la base était très similaire à ce que, qui a été publié, sauf qu'il y a des bouts qui ont été ajoutés par la suite, parce que là, je me disais, ah mon Dieu, je vais sortir ça, personne va m'aimer, comme, tu sais, je vais me mettre à dos la moitié de la population du Québec, là, genre, il n'y a plus aucun gars qui va vouloir me parler. Fait que j'ai comme ajouté des bouts pour essayer de tamiser un peu tout ça, d'aplanir certaines choses que j'avais envie de dire de façon plus incisive. Puis justement, en publiant en France, on dirait peut-être parce que j'ai une distance avec... justement, j'habite pas là-bas. On dit, peut-être que je m'en lave les mains puis je me dis, bon, ils se débrouilleront avec l'effet que ça leur fait, mais... En France, là, j'ai vraiment plus laissé aller le côté incisif, puis revendicateur, puis révolté. Il y a des phrases choc dans le livre en France, comme « je déteste les hommes ». Puis il y a des choses sur lesquelles je fais pas de compromis, que j'ai fait des compromis au Québec. Mais je pense que au-delà de peut-être des traits culturels qui pourraient faire des différences, je pense surtout aussi, après l'expérience du premier livre, dans le fond, tu sais, on se met toujours un peu... déjà, moi, j'y suis allée fort, là.
Oui.
mais mettons... C'est un peu comme rentrer dans la piscine, là. On met notre orteil dans l'eau, puis là, tu sais, tranquillement. Puis là, j'ai vu ce que ça faisait d'aller à la radio, justement, d'avoir des entrevues, d'avoir des gens que je connais pas qui parlent de mon livre. C'est mon histoire à moi qui est comme super importante. Fait qu'avec l'expérience de tout ça, je me sens peut-être plus à l'aise que ce soit plus direct en France.
Oui. Alors, Michel, on est pratiquement à la fin de notre entrevue. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur ton livre?
Ben, en fait, j'encourage tout le monde à l'acheter. Comme ça, moi, je vais pouvoir faire l'épicerie de façon, ponctuelle. Puis sinon, je pense que c'est le plus beau témoignage de la valeur qu'on m'accorde comme être humain d'acheter mon livre puis de le lire. Puis peut-être de continuer à m'encourager avec les livres que je vais publier par la suite.
Ouais, alors on va commencer notre série de rafales, Michel. Est-ce que tu es prête?
Oui, je suis prête.
Quel est ton plat favori lorsque tu étais enfant?
Ah, les sandwichs au pain blanc gadois avec du fromage orange Kraft puis de la mayonnaise.
Ouh! ça a l'air bon, ça!
C'était bon, mais c'était un mets de pauvre, là, un petit peu.
oh, dis pas ça. Moi, j'ai envie de manger là. Tu sais, dès que tu as dit, je me suis dit, non, mais attends, ça a l'air délicieux!
Ouais, mais bon...
Ok, je vais chercher ça sur Internet. Comment te décris-tu?
Moi, je me décris comme une personne sans filtre, très joyeuse. Puis je dirais que je suis une personne drôle. Puis je dirais même que je suis capable de faire de la magie avec pas grand-chose.
Que lis-tu présentement?
En ce moment, là, je reviens du Salon du livre du Saguenay. J'ai acheté 300 pièces de livres. J'ai acheté le livre de tous mes collègues.
Tu dévores, toi!
ouais. Donc là, en ce moment, je suis en train de finalement lire Tableau final de l'amour de Larry Tremblay, qui a gagné le prix littéraire du gouverneur général.
OK.
Dans le fond, le prix des libraires cette année. Puis c'est excellent. Je recommande à tout le monde. Mais j'ai lu aussi Moi, les hommes, je les déteste, de Pauline Armange. Puis je relis périodiquement King Kong Theory de Virginie Despentes.
Quels sont tes trois auteurs préférés?
Ah, c'est tout le temps difficile de répondre à ça, mais juste, je dirais Nelly Arcand, Annie Ernaux, puis Virginie Despentes.
Nelly Arcand, je l'ai lue lorsque j'étais à l'université. Je me souviens plus c'était quelle œuvre, mais son nom, Nelly Arcand, ça me dit... Est-ce que c'était Putain?
Oui, Putain. Ensuite, elle a écrit Folle. Il y a une série, mais Putain, c'est souvent le roman Putain, avec lequel on la reconnaît.
Chaque écrivain a des routines d'écriture qui lui sont propres. Quelles sont les vôtres?
Ah, mon Dieu, moi, j'en ai pas du tout. moi, c'est complètement chaotique. Je peux passer un mois sans écrire, puis à un moment donné... J'ai un flash, puis là, je m'assois, puis je parle pas à personne, je sors pas de mon appartement pendant 3 semaines, puis j'ai écrit un livre au complet, là. J'y vais vraiment avec mon émotion, avec comme... Je suis quelqu'un qui essaye vraiment d'être à l'écoute le plus possible de comment je me sens, puis de respecter ça, fait que ça a du bon puis du moins bon, parce que des fois, ben ça me retarde dans plein de choses, mais ça donne aussi des bons résultats, je me fais confiance pour ça.
Quelle est ton expression ou ta citation favorite?
Attends, là... Une citation favorite ou une expression? Je pense que j'en ai pas tant que... J'en ai pas de... Attends.
Quelque chose que t'aimes dire tout le temps, genre... Mais moi, par exemple, c'est genre, actuellement, mais...
Ouais, ben, je dis souvent que c'est une catastrophe, mais c'est parce que j'ai vraiment... Souvent, les expressions que j'utilise, c'est des extrêmes, là. Tu sais, c'est vraiment à l'air... Oh, ça reflète qui je suis, là, mais c'est soit comme, oh mon Dieu, c'est incroyable, ou c'est une catastrophe. Ouais. Tu sais, y a pas de milieu, fait que je dirais que c'est les expressions que j'utilise le plus.
Le plus, hein. Ouais. Eh bien, Michel, c'était tout aujourd'hui pour notre petite entrevue. Merci d'être venue.
Merci beaucoup, Yasmina.
Et ça fait plaisir.
C'était vos informations présentées par Yasmina Dagri dans le cadre de l'initiative de journalisme local.